portrait de femme de notre matrimoine, c'est notre 30e portrait de femme de notre matrimoine de la deuxième série, donc saison 2022-2023. Et c'est avec beaucoup d'émotion que Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires 04, va nous faire ce dernier portrait. Il s'agit de Maria Borelli. Bonjour Jacqueline.
Oui. Bonjour Odile, bonjour à toutes et à tous. Oui, aujourd'hui, pour le 30e portrait, nous sommes en Europe, nous sommes en France et nous sommes même très près d'ici, puisque nous présentons une enfant du pays, comme on dit communément, Maria Borelli. Borelli, B-O-2-R et accent aigu L-Y, l'écrivaine provençale inspirée. D'origine très modeste, ses parents sont des villageois du département des Hautes-Alpes, 05. Son père, Augustin Brunel, engagé dans l'armée, est affecté au bagne de Cayenne comme surveillant dans ce pénitencier de Guyane française où la vie des gardiens est presque aussi dure que celle des forçats. Revenu de cet enfer, Julien épouse une fille de son pays, Théodore Armand. Puis, étant affecté à Marseille comme inspecteur aux mœurs, il s'installe avec sa femme dans cette grande ville portuaire bruyante, grouillante d'activité. Donc, c'est à Marseille que naît Maria Rose Brunel, le 16 octobre 1890. À l'âge de 3 ans, elle est atteinte de la poliomyélite, très grave maladie qui la laissera boiteuse pour la vie. Seul son talon droit pourra se poser sur le sol pour la marche. Ses parents ne pouvant plus assumer les soins coûteux que réclame son état de santé, la confie à sa tante Madeleine, une sœur de son père, qui vit bourgeoisement à Aix-en-Provence avec son mari Louis Dufort, directeur du journal local Le Petit Marseillais, futur La Marseillaise. Pendant 10 ans, choyée par son oncle qui a constaté en elle une intelligence précoce, elle fera des études secondaires à Aix, ce qui paradoxalement fut une chance pour elle en comparaison du sort de ses frères et sœurs. En 1905, Maria retrouve sa famille qui s'est installée à Mannes, près de Fort-Calquier, où elle tient un bureau de tabac. Elle suit la formation d'institutrice à l'école normale de Digne, la ville chef-lieu du département des Basses-Alpes, actuellement Digne-les-Bains, Basses-Alpes, actuellement Alpes de Haute-Provence. À 19 ans, sa première affectation est un village perdu en haute montagne, Certa-Mussa. Un village sans eau ni électricité, isolé en hiver à 1650 mètres d'altitude. Mais c'est là qu'elle rencontre un jeune instituteur d'un village voisin, Ernest Borelli. Ils deviennent amoureux, se marient à Mannes en 1910. Maria devient Maria Borelli. Les affectations se succèdent dans la vallée de l'Ubaye. À Josier, près Barcelonnette, naît leur premier fils Jacques le 30 novembre 1911. Maria et Ernest sont pacifistes et partisans de la laïcité. Pour les pacifistes, les conflits armés sont un reste de barbarie que toute civilisation se doit d'éradiquer par l'instruction publique. Mais Ernest est obligé de faire ses 3 ans de service militaire dans le 157e régiment d'infanterie alpine dans les différents forts accrochés au flanc des montagnes. En tant qu'instituteur, il est même chargé d'alphabétiser ses camarades. Mais les pacifistes ont perdu la partie. La Grande Guerre, celle de 1914-1918, est déclarée. Le 17 août 1914, le régiment d'Ernest part pour l'Alsace, les soldats immédiatement envoyés au front. Du 25 août au 1er septembre, de nombreuses attaques meurtrières se succèdent. En une seule journée, 25 jeunes de la vallée de l'Ubaye sont tués, 85 blessés, beaucoup d'autres disparus. Ernest gardera toute sa vie le souvenir de ses combats, des morts, de la vie dans les tranchées. Son pacifisme s'y enracine à jamais. Mais il souffre de l'estomac depuis longtemps. Il est démobilisé pour raison de santé le 20 août 1915. Maria aussi devient définitivement une ardente partisane de la paix. Après la guerre et une année passée à Seine-les-Alpes, ils sont affectés à l'école de Puy-Moisson en 1918, un double poste d'enseignant. Là commence une belle période de leur vie, féconde en engagement professionnel et politique passionné pendant 14 années, l'apogée du parcours de Maria. Il faut préciser que dans le département des Basses-Alpes, Puymoisson est tout le contraire des villages des rudes contrées qu'ils viennent de quitter. Au sud, dans la partie provençale du département, Puymoisson est situé sur le plateau de Valensole, la terre de culture de la lavande, du blé et des amandiers, sur la route de Moustier-Sainte-Marie. La maison d'école, comme on appelle les écoles dans ce pays, est pourvue d'un logement de fonction agréable. Du point de vue professionnel, Maria et son mari sont adeptes de la nouvelle pédagogie, la méthode Freinet, F-R-E-I-N-E-T, du nom de son inventeur, Célestin Freinet. Cette méthode prône le principe d'une participation active des élèves à leur propre formation, ce à travers, par exemple, la réalisation d'un texte libre rédigé par chaque élève à la maison ou à l'école. Maria pratique largement cette méthode, qui n'a rien à voir avec l'écoute passive, le résultat étant une motivation forte de l'élève à la satisfaction des parents et des inspecteurs de l'éducation nationale. Du point de vue politique, l'idéal de Maria et Ernest Borelli est le progrès social et le pacifisme. Or, en novembre 1919, c'est le retour à la Chambre des députés d'une majorité conservatrice et nationaliste. Toute opposition est considérée comme dangereuse pour la stabilité de l'État. Le 24 mars 1920, une loi interdit aux fonctionnaires de faire grève. Maria s'en offusque vivement dans un article du journal « L'école émancipée » où elle écrit. Maria est aussi secrétaire du syndicat des instituteurs des Basses-Alpes. Elle est devenue une vraie journaliste, multipliant les articles aux positions tranchées. Dans « Le travailleur des Alpes », elle écrit, je cite, « Qui nierait aujourd'hui la haine des classes ? Il n'y a, il ne peut y avoir, avec la puissance politique bourgeoise, d'accommodement, de mieux-être, de progrès. » Le 18e congrès de la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, Parti socialiste, dit « Congrès de Tours » a lieu du 25 au 30 décembre 1920. Sur près de 400 délégués, seulement 7 femmes, dont Maria, qui, avec Ernest, a fait le voyage depuis les Basses-Alpes. Le coup de théâtre de ce congrès est la présence surprise de Clara Zetkin, fondatrice de l'Internationale socialiste des femmes, créatrice, rappelons-le, de la Journée internationale pour les droits des femmes le 8 mars de chaque année dans tous les pays. Elle s'exprime dans un français parfait. La section française de l'Internationale communiste est créée, future PCF. Maria et Ernest y adhèrent. Pour Maria, cela veut dire en même temps adhérer au mouvement féministe. Elle devient la secrétaire du, entre guillemets, groupe des institutrices féministes, créé la même année, qui a pour objectif l'amélioration de la condition professionnelle, sociale et matérielle des femmes. Elle propose de mettre l'éducation sexuelle au programme scolaire, innovation, réclame la libre maternité. Maria, pour qui l'émancipation des femmes ne viendra que par elle, est très active. Avec d'autres collègues, elle fait des enquêtes précises sur les problèmes rencontrés par les institutrices du fait de leurs conditions d'épouse et de mère. À 30 ans, Maria est une femme épanouie, expérimentée dans son métier. Elle lit, s'informe, a des tribunes régulières dans plusieurs journaux. Bien que surveillée par l'éducation nationale et même la Sûreté générale, elle reste euphorique. Dans ce contexte, elle donne naissance à son deuxième enfant, Pierre, le 9 mars 1921, 10 ans après Jacques. Elle poursuit son action militante, méfiante à l'égard du progrès technique de l'élevage intensif, persuadée que les hommes sont menacés par l'uniformisation étouffante du confort, que la campagne l'est par le centralisme intellectuel et la suprématie parisienne. Aussi les instituteurs et institutrices jouent-ils un rôle capital dans les mouvements régionalistes. Maria et Ernest ont créé une bibliothèque à Puymoisson. Ils y organisent pour les villageois et villageoises des séances de lecture d'ouvrages classiques qui sont aussi des occasions d'échange. Maria et Ernest se lient d'amitié avec des écrivains, des artistes qu'ils réunissent à la maison d'école, créant ainsi un véritable foyer intellectuel de pacifistes humanistes. Comme elle veut mettre en mots toute cette matière, elle s'attelle à l'écriture de son premier ouvrage, un essai intitulé « Aube », A-U-B-E. Ce livre a pour but d'inciter les lecteurs et lectrices à changer leurs habitudes de vie, souvent néfastes pour la planète. C'est une célébration de la nature et du végétarisme, car elle est persuadée qu'il y a urgence pour éviter la catastrophe qui guette le monde. Et c'est, on le voit, très en avance sur son temps, donc écrit en 1927. Elle a 37 ans, défendant des idées novatrices, voire visionnaires, quand on pense à l'actualité de notre 21e siècle. Le couple fait la connaissance de celui qui deviendra leur ami, Jean Giono, futur écrivain à succès, avec lequel ils ont de nombreux points communs, l'amour de la littérature, de la nature, avec d'autres écrivains régionalistes tels Henri Pourrat ou Francis Jammes, par exemple. Ils partagent les mêmes idées sur le respect de la nature, les risques du progrès scientifique, sans pour autant vanter une vision idyllique de la campagne. Selon eux, l'être humain esclave de la modernité met la nature et les hommes en péril. Toutes idées ô combien prémonitoires, si on songe à ce que nous vivons aujourd'hui dans tous les pays de la planète. Dans sa vie quotidienne, Maria se radicalise. Elle est devenue une végétarienne inconditionnelle, se met en colère, se dispute avec son mari. Elle est critiquée dans le village parce qu'elle passe plus de temps à écrire qu'à s'occuper de ses enfants et de son ménage. L'écriture lui procure une paix bienfaisante. Après les heures passées debout sur son talon à longueur de journée, sans rien montrer de sa fatigue, elle écrit son premier roman, Sous le vent, d'après des faits réels survenus à Puymoisson, à savoir le suicide d'une jeune femme par désespoir amoureux. Elle veut donner à réfléchir sur la condition de la femme. Giono est enthousiaste, André Gide élogieux, Ernest, malgré leurs disputes, l'admire. En 1930, elle a 40 ans, c'est l'année marquante de la publication de son roman par les éditions Gallimard. Elle entreprend un deuxième roman, Le dernier feu, pour exprimer l'idée de la grave désertification des campagnes liée à la course effrénée au profit. Mais elle avait peur de décevoir, n'était pas sûre d'elle, travail épuisant. Elle est militante, journaliste, pédagogue, mère et épouse tout à la fois. Elle voulait mener tout de front. La charge mentale est trop lourde pour elle, sa santé mentale s'en ressent. Arrivent les déconvenues, les trahisons conjugales et amicales, l'harmonie de sa vie est rompue. Elle se met à douter d'elle-même. On ne cesse de la comparer à Giono, on dit qu'elle est son élève. Certains, cependant, reconnaissent son talent propre. De plus, les nouvelles du monde sont mauvaises. Le chômage explose, les bidonvilles se multiplient et les idées fascistes s'expriment en Europe. Tout ceci n'annonce pas un monde meilleur comme elle l'espérait, au contraire. Elle perd ses certitudes, tombe malade, handicapée par de violents maux de tête, possible résurgence de la maladie dont elle a été victime enfant, la poliomyélite. En 1933, elle ne fera pas la rentrée scolaire, son médecin ayant demandé et obtenu pour elle un congé de longue durée pour dépression, troubles nerveux et physiques. En 1933, l'arrivée de la famille à Digne, Ernest a été muté à un poste de professeur au lycée Gassendi, coïncide pour Maria avec le début d'une lente régression. N'étant pas en état de reprendre son métier d'institutrice, elle est forcée d'accepter sa retraite anticipée proportionnelle, c'est-à-dire réduite. Quand son mari fait partie du comité basalpin de vigilance contre le fascisme, elle ne s'implique plus, signe d'une grave dépression. Dans ses lectures, elle plonge aux sources de la spiritualité antique et se retire de la vie publique. Cependant, elle continue d'écrire. Son roman « Les Reculats » paraît en 1936. Son côté mystique se révèle, se réveille, prend toute la place. Elle prend ses distances avec Giono. Ernest la quitte. En 1938, il demande la séparation de corps et rejoint une autre femme. En 1939, l'univers de Maria s'est donc complètement délité. Elle vit pauvrement de sa petite retraite avec Pierre dans le modeste appartement du boulevard Thiers à Digne. La guerre éclate le 3 septembre 1939. Paradoxalement, cela provoque chez Maria un sursaut. Devant l'adversité, elle réagit. Elle entre dans la résistance, se rapproche à nouveau du Parti communiste, reprend son combat pacifiste et humaniste. Ernest est réformé, mais Jacques, le fils aîné, est fait prisonnier et envoyé en Allemagne. Le gouvernement de Vichy procède à une épuration sans merci du corps enseignant. Le 15 décembre 1940, Ernest reçoit sa révocation à cause de son pacifisme. Pendant les années d'occupation allemande, Maria a montré un moral à toute épreuve. Elle a participé activement aux opérations de résistance, parachutage sur le plateau de Valensole, matériel, provisions, armes, passé au maquisard, aidée en cela par Paulette, sa belle-fille, et Pierre et des amis. Son logement boulevard Thiers est un lieu de réunion des résistants. En pleine nuit, Ernest est arrêté, amené à la villa Marie-Louise, siège de la Gestapo à Digne, puis transféré à Avignon pour être déporté en Allemagne. Mais le 19 juillet 1944, Pierre, son fils, avec l'aide d'amis, réussit à le faire s'évader. Mis à l'abri à Mann, chez une sœur de Maria, il revient à Digne le 16 août, alors que les Alliés bombardent la ville. Plus tard, Ernest sera élu au conseil municipal de Digne, puis président du conseil général des Basses-Alpes jusqu'à sa mort en 1959. Il a obtenu de nombreuses distinctions honorifiques, dont la Légion d'honneur. Maria, elle, ne recueille aucune reconnaissance de ses faits de résistance. Elle a été écartée de la maison d'édition où elle avait un contrat, parce que communiste. Elle ne joue donc aucun rôle politique après la guerre. Jacques rentre de captivité au début de l'été 1945 dans un état physique et moral pitoyable. Maria obtient le divorce en 1948. Elle s'est retirée les dernières années dans une petite maison du quartier du Theil. On prononce Theil, mais ça s'écrit T-H-E-Y. Ses fils ont fondé des familles et vivent loin d'elle. Elle se tourne alors vers la spiritualité. Son dernier ouvrage, « Les mains vides », se veut une sorte d'évangile des pauvres. Renonçant à sa carrière d'écrivaine, renonçant à publier, tout en continuant à écrire, elle se coupe du monde peu à peu. Mais elle vit maintenant dans une solitude voulue, apaisante, reposante, qui lui apporte la paix du cœur et de l'esprit. Elle meurt le 23 février 1963 et est enterrée au cimetière de Saint-Véran, à Digne, où repose aussi Ernest Borelli, dans une autre tombe. Dommage que sa tombe ne soit pas indiquée. Je l'ai cherchée, je ne l'ai pas trouvée, mais j'ai trouvé celle d'Ernest Borelli. Alors, en conclusion, vaincu dans sa quête ardue d'un monde meilleur, sa santé mentale altérée, elle a abandonné la lutte collective pour passer à autre chose, dans un autre monde, celui de la spiritualité individuelle, grâce à la prière et à la méditation. Elle a trouvé dans cette posture une amie compréhensive qu'elle admire, Alexandra David-Nel, la grande exploratrice célèbre installée à Digne, qui la reçoit et avec laquelle elle a pu échanger librement, elle qui a souvent souffert d'être incomprise. Par son parcours de vie si riche, si dur, elle a vécu deux guerres. Par son œuvre inachevée, mais puissante, forte, inspirée, Maria Borelli, l'écrivaine provençale oubliée, est bien une femme exceptionnelle de notre matrimoine. On peut citer son œuvre. Alors, premièrement, Aube, cet essai dont on a parlé, édition Figuière, 1927, Sous le vent, Paris Gallimard, 1929, Le dernier feu, préface de Jean Giono, Paris Gallimard, 1931, Les reculats, Paris Gallimard, 1936, Les mains vides, première édition posthume Bernard Vial, 1989, deuxième édition posthume par Daniel Anki et Paulette Borelli. Et puis, La tempête apaisée, 2017-2018, édition Parole, déchiffrée par sa belle-fille, Paulette Borelli, un roman illuminé par une forme de spiritualité très fine. En ce qui concerne les hommages, il y a un collège à Digne-les-Bains qui est nommé Maria Borelli. L'école primaire à Puymoisson porte son nom, mais ça, c'est à vérifier. Et puis, en 2018, il y a eu à Manosque, Bradas, Digne, Bannon, Puymoisson, des rencontres Maria Borelli du 5 octobre au 9 novembre 2018. Les sources, Maria Borelli, La vie d'une femme éblouie par Daniel Anki, Le Papillon Rouge, éditeur, 2022. et puis les archives départementales des Alpes de Haute-Provence à Digne-les-Bains, consultées par l'autrice précitée.
Merci Jacqueline pour ce portrait de Maria Borelli, 30e de la deuxième saison de Portrait de femme de notre matrimoine. Et voilà, on peut dire que ça a été une sacrée aventure. Est-ce qu'on rappelle bon, qu'on peut retrouver bien sûr tous ces portraits de femmes sur notre site www.fréquencemistral.com, onglet de Digne-les-Bains dans nos émissions, Portrait de femmes de notre matrimoine. On se retrouve peut-être après les vacances pour une nouvelle aventure.
Peut-être, si la radio le souhaite, pourquoi pas une autre forme d'émission, effectivement. En attendant, je souhaite de belles vacances à vous, Odile, et puis à toutes les personnes qui nous écoutent.
Merci et bonnes vacances à tous. Et restez à l'écoute de Fréquence Mistral, bien sûr. À bientôt, on écoute donc notre générique préféré pour Portrait de femme. Au revoir.
Au revoir.